savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Méchant, obscène, ignorant, hideux, grossier, fétide, lamentable, répugnant, abruti, étriqué. Voici quelques synonymes pour désigner une personne ou une entité détestable. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Ces mots barrent l'affiche du dernier film de l'Israélien Nadav Lapid, justement intitulé « Synonyme ». Le héros, Yoav, part vivre à Paris et refuse de parler hébreu, manifestant en cela le rejet de son pays natal. Un film couronné de l'Ours d'or au dernier festival de Berlin et dont Nadav Lapid viendra nous parler dans une vingtaine de minutes. Mais on ne peut parler cinéma ce samedi sans rendre hommage à l'une des grandes dames du 7e art, disparue hier, morte quelques semaines seulement après son grand ami Michel Legrand. Il s'agit d'Agnès Varda.
Cette Palme d'Or est un plaisir surprenant. C'est inattendu parce que les précédents récipiendaires, Clint Eastwood, Woody Allen et Bernardo Bertolucci avaient entre autres, talent, celui d'avoir fait gagner des millions et d'avoir atteint des millions de spectateurs. Ce n'est pas mon cas. Je suis française, je suis femme, et mes films n'ont ni gagné, ni fait gagner de l'argent.
Agnès Varda, qui recevait ici la Palme d'Or d'honneur, c'était en 2015 sur la scène du Grand Théâtre Lumière à Cannes. Agnès Varda, morte hier à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer, quelques semaines après avoir présenté au Festival de Berlin son tout dernier film, un documentaire testament, Varda par Agnès, Agnès Varda qui filmait La Mémoire en Marche.
Alors, je suis quand même venue au Festival de Cannes avec Cléo de 5 à 7 en compétition. Corinne Marchand et moi, on ne connaissait personne, on était épatés. Et puis en 1964, Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Je le revois avec Catherine Deneuve et Michel Legrand descendant les escaliers de l'ancien palais. Et puis quelques jours plus tard, on le rappelle, Palme d'Or. Comme il était heureux, vraiment heureux. En 91, projection ici dans cette grande salle de Jacques de Nantes, sans Jacques. On pleurait tous, sauf les enfants du film, qui étaient très contents.
Alors Agnès Varda, c'était une guerrière, un peu une Jeanne d'Arc même, avec sa coupe au bol bicolore, ses chemises violettes, son sourire toujours bienveillant. Elle était la doyenne du cinéma français, l'une des artistes hexagonales les plus célébrées dans le monde. Alors Agnès Varda, elle est née Arlette Varda en mai 1928 et elle a eu plusieurs vies, d'abord comme photographe, accompagnant à ses 20 ans, dès 1948, les tout jeunes festivals d'Avignon et Théâtre National Populaire de Jean Villard. Puis vient le cinéma où elle s'impose en 1955 avec La Pointe Courte, un premier film tourné à 7, qui annonce déjà la nouvelle vague avec son tournage léger en décor naturel, Sylvia Montfort, Philippe Noiret, Cheveux au vent, dans le port de 7. Tout le reste de son œuvre est à l'avenant, un cinéma ludique et audacieux qui se joue des conventions, toujours attentif aux femmes et aux marginaux. En 1985, Sans toi ni loi, sur l'errance tragique d'une jeune SDF jouée par Sandrine Bonner, lui vaut le Lion d'Or, la plus haute récompense du Festival de Venise. Agnès Varda aura tourné une quarantaine de films de tout support, de toute durée, en noir et blanc et en couleur, fiction et documentaire, des œuvres qui se jouent des frontières et des genres cinématographiques et sexuels. Elle était aussi plasticienne ou artiste visuelle, comme elle aimait à le dire, depuis qu'elle avait été invitée à construire une installation en 2003 à la Biennale de Venise. Et tout juste avant ses 90 ans, Agnès Varda avait reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.
Je me souviens, pendant que je vis.
Voilà un extrait des plages d'Agnès, un de ses documentaires de mémoire tourné en 2008. Agnès Varda continuait de tourner, de créer, de parler de son grand amour Jacques Demy, de documenter sa vie. Je vous propose de réécouter un extrait de l'émission que Pascal Paradou lui avait consacrée en 2011 à l'occasion de la diffusion sur Arte de la série Agnès Decy de la Varda.
Le problème n'est pas de se souvenir et de faire une évocation des souvenirs, mais plutôt
de faire au présent, qu'est-ce que c'est l'acte de se souvenir?
Et il y a une scène assez extraordinaire dans votre film avec justement Manuel de Oliveira qui imite Charlot pour vous et pour faire rire l'assistance, qui se lance dans un duel contre le vide et qui vous parle des anges.
Nous ne sommes pas saints. Nous sommes avec l'ange de la création. Et nous sommes toujours accompagnés. Nous ne le voyons pas, mais il est là. Les anges sont la configuration de l'esprit.
Et l'ange gardien?
L'ange garde, c'est le destin. C'est un esprit. C'est un esprit qui lui commande. Nous croyons que nous sommes libres, mais nous ignorons les forces obscures qui nous commandent.
Manuel de Oliveira, dans votre film Agnès Varda, qui est votre ange gardien?
Je ne pense pas que c'est... Je ne suis pas comme lui, je ne pense pas qu'il y a l'ange de la création. Et je pense que comme d'autres, quelques forces obscures ou quelques forces légères me poussent suivant les jours. Je ne pense pas aux anges gardiens, mais je crois quand même aux présences impalpables de ceux qu'on a aimés et qui ont disparu. Mais pas dans le genre... Jacques Demy vient pas me toucher l'épaule quand j'écris, hein. Mais j'ai l'impression que quand on a vécu dans une maison avec quelqu'un et qu'on est dans la même maison, il y a une sorte de, voilà, de ça, de réalité, d'une impression. Mais je pense pas tellement aux anges. Par contre, les anges que j'aime, qui sont des anges de peinture, sont les anges des annonciations. Et dans ce film, dans cette série, j'appelle film parce que je fais pas beaucoup de différence entre la télévision et le cinéma, à ma façon de travailler.
Et dans cette... Vous travaillez exactement de la même manière?
Oui. C'est le même travail, c'est la même réflexion sur le montage et le commentaire. Or, dans cette série, où essentiellement il s'agit d'art contemporain, je ne peux pas m'empêcher quand même de filmer des annonciations et quelques peintures de Van der Weyden, et que ça m'amuse parce que certains anges sont timides, d'autres sont fracassants, d'autres sont drôles, d'autres sont un peu féminins. D'autres sont des guerriers, en quelque sorte. Et l'idée que, sur un sujet, chaque artiste a trouvé sa propre représentation, sa propre écriture. C'est en fait ce que nous faisons, parce que moi je parle de chroniques, je parle de pays où tout le monde a pu aller, je fais des histoires dans mes fictions que peut-être sont les mêmes que tout le monde. Où est-ce qu'on trouve un ton, une écriture, une forme qui est assez personnelle pour que la rencontre se fasse avec les gens qui regardent?
C'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, Agnès Varda, c'est-à-dire la rencontre des forces obscures et des forces légères, parce qu'il y a toujours chez vous à la fois quelque chose de très sérieux, mais l'idée d'une divagation, de digression, et puis quand même toujours un œil un peu malicieux, un petit mot qui va faire que c'est drôle.
Si on est observateur, ce que je suis, comme sont beaucoup de gens, on ne peut pas s'empêcher de trouver amusant des choses qui s'inscrivent dans le quotidien, dans un quotidien qui est lourd de sens, qui est chargé, qui est chaotique, qui est plein de malheurs, qui est plein de difficultés. Car regardez la télévision, au journal, des nouvelles, ce sont des mauvaises nouvelles, on peut dire dans l'ensemble. Mais dans la vie où on voit des gens soucieux, c'est que moi je prends des bus, je prends des transports, je regarde les gens. Au milieu de toute cette difficulté, de cette pesanteur de ce que représente la vie pour beaucoup d'entre nous, d'autres gens surtout plus pesants que nos vies, il y a quand même toujours des choses drôles à observer, des façons de parler, des comportements, des rapports même entre les gens, ou même des gens qui traitent, qui sont ridicules avec leurs enfants, ou bien qui sont charmants, ou des amoureux qui se disputent, ou des personnes qui rouspètent, on ne sait pas contre qui. Et dans tout ça qui est compliqué, moi je peux pas, moi j'ai un œil qui cligne, quoi. J'ai un œil qui a envie de rigoler.
En 62, je chante Alléluia à la chorale.
Alléluia, Alléluia.
Je chante Shabada, wa wa, derrière un rocker yéyé. J'ai 17 ans et des problèmes avec mes parents.
Ça, tu l'as cherché, hein?
En 62, j'ai 22 ans et des problèmes avec mes enfants.
Et tu peux pas travailler, toi?
Avec ces deux-là? Et puis quoi faire? J'ai rien appris. D'ailleurs, il n'y a même pas de place dans la crèche du quartier.
On va pas raconter l'histoire.
D'autant qu'elle dure 13 ans.
14. Ça finit en 76 et en apothéose. On a grandi, on est belle.
On a compris, on est content d'être femme.
Etc, etc.
ni mutante, ni collante. Je suis femme, je suis moi.
T'as peur de quoi?
Ok, j'ai peur, ça va, tu es contente?
Chiante. Bref, tu n'as jamais couché avec un garçon.
C'est ça.
Et tu veux ou pas?
Je veux être sûre que je veux. Y a pas le feu?
Alors j'attends.
C'est ça, tu attends. Ni papote, ni palote, je suis femme.
Bref, c'est un film épatant.
Et toutes deux sont épatantes. Toutes deux, c'est celle qui chante, Valérie Mérès, et celle qui ne chante pas, Thérèse Liotard.
L'une chante, l'autre pas, le film qui vous enchantera,
qui vous intriguera au pire des cas,
qui vous passionnera au meilleur des cas,
etc., etc.
Et c'est un film d'Agnès Varda.
Voilà, Agnès Varda, c'est une vie de cinéma, une vie d'engagement aussi féministe. Celle qui signe en 1971 l'appel à la légalisation de l'avortement tourne 5 ans plus tard la comédie musicale L'une chante, l'autre pas, dont on vient d'entendre la bande-annonce. L'an dernier, elle menait avec l'actrice Cate Blanchett une marche des femmes pour l'égalité au dernier festival de Cannes. Et quelques mois auparavant, Elisabeth, vous l'aviez rencontrée à Angers lors d'un hommage rendu par le festival Premier Plan. Et elle vous avait parlé de son combat féministe.
C'est pas nouveau pour moi le combat. Ici, c'est le combat continu. Le féminisme, ça a gagné beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de réalisatrices, beaucoup de techniciennes. Ça a changé depuis que je suis jeune. Mais le combat pour les mentalités, il y a du boulot.
Mais est-ce que vous pensez qu'on vit un moment crucial du féminisme ?
On vit un moment de société. Un moment de société, parce que c'est pas le féminisme, c'est la conscience maintenant qui est mise en éveil chez les hommes et chez les femmes. Je pense que la crise actuelle va secouer beaucoup autant les hommes que les femmes. Et c'est bien. Il faut qu'il y ait des crises. Je veux dire, il y a des excès affreux, pas justes, mais on secoue la société en disant les hommes se comportent mal avec les femmes et les femmes ont trop souvent accepté. Moi, je suis une femme qui a toujours été en colère. Moi, j'ai pas été agressée parce que il y a des femmes qu'on peut pas agresser, même quand j'étais mignonne et jeune. Non, parce que vous avez aussi une attitude. Mais il y a des femmes qui sont plus faibles, qui ont envie de séduire, qui ne se rendent pas compte des degrés de danger, si j'ose dire.
Mais justement, cette lettre qui a été signée par 100 femmes, Catherine Millet, Catherine Deneuve, qui dénonce en fait le puritanisme, qui est anti-féministe d'une certaine façon.
C'est compliqué. Je ne sais pas si elles ont eu raison de faire cette lettre. De même que je ne sais pas si les autres ont eu raison de gueuler, dénonce ton porc. Vous voyez. Il ne faut pas que ça devienne la lutte des sexes.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces femmes?
Je ne réponds pas. Quand on fait signer des gens connus, ça devient de nouveau un acte de mondanité. Ce qui est intéressant, ce serait que 500 femmes, des ouvrières, des travailleuses et des femmes chics, que tout ensemble elles fassent un texte. Mais quand c'est des gens connus, ça redevient un acte de publicité. Moi, je suis contre la publicité, contre l'exagération. Moi, justement, je suis féministe, et depuis toujours. Tout ce qui a avancé, on l'a fait avec des hommes. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il y ait cette complicité des hommes entre eux. Justement, Weinstein, il y a eu un truc très intéressant. Le cinéaste Tarantino, il a dit, quand je pense que je le connais depuis longtemps, je l'aime beaucoup, j'étais au courant de tout ça. Je lui ai rien dit à lui, j'ai rien dit aux autres. Et je m'en veux. C'est-à-dire, s'il comprend qu'il ne faut pas être complice de ceux qui agissent mal, il ne faut pas être complice de tout ce qui bouscule la société. Mais on ne peut pas être puritain non plus. C'est rigolo de séduire, c'est rigolo d'aimer. Et ça reste un moteur extraordinaire pour les hommes et les femmes.
Merci beaucoup, Agnès Varda.
Voilà, Agnès Varda, toujours pétillante, libre, indépendante d'esprit, qui continuait inlassablement de tourner, de créer, de bricoler. Chez elle, dans sa maison atelier de la rue Daguerre, dans le 14e arrondissement de Paris. Dans les années 2000, on l'a dit, elle avait investi le champ de l'art contemporain. Et puis, en 2017, avec le jeune plasticien JR, elle avait tourné le documentaire Visage Village. Mais si on ne devait choisir qu'un ou deux films de sa longue carrière, eh bien le critique Jean-Michel Frodon ne retiendrait pas Visage Village, l'antithèse l'antépénultième film d'Agnès Varda, mais bien plutôt Cléo de 5 à 7, le film chéri de la nouvelle vague, où l'on suit l'errance, le vagabondage en temps réel de Cléo dans Paris. Cléo, alias Corinne Marchand, frappée d'un cancer dans la fleur de l'âge.
J'ai vu le cancer. Elle est perdue.
Si c'est ça, je me tuerai.
Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime.
C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix.
Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser.
Personne ne peut mettre de côté l'importance qu'a eu et qu'a toujours Cléo de 5 à 7 en 1961. C'est un film magnifique, c'est un film bouleversant, c'est un film novateur, c'est un film qui l'installe au premier rang des grands artistes du cinéma de son temps et pour toujours. Après, il y a bien d'autres réponses possibles, si j'en ajoute qu'une seule. Ce sera Les Glaneurs et la Glaneuse en 2000.
J'ai comme glanage. Glaner, c'est ramasser après la moisson. Glaneur, glaneuse, celui ou celle qui glane. Autrefois, il s'agissait toujours de glaneuses, et les plus célèbres peintes par milliers étaient reproduites dans les dictionnaires.
Glaner, c'est l'esprit d'intense. J'ai entendu souvent ma mère dire « Finis de ramasser pour pas gaspiller ». Maintenant, malheureusement, ça se fait plus, parce qu'il y a des machines tellement performantes, mais une journée au soleil, quand il y a des bestioles qui vous piquent, des moustiques, c'est pas trop agréable. Mais en fait, ça nous plaisait.
Un film qui témoigne de l'attention au monde extraordinaire d'Agnès Varda, qu'elle a toujours eu, mais aussi de l'attention aux techniques, puisque c'est le moment où elle est parmi les premières à inventer de nouveaux usages des petites caméras numériques et d'en faire un nouveau moyen d'aller vers les gens et vers la réalité, et puis encore de trouver comment associer quelque chose en prise avec le monde, avec quelque chose de très intime. C'est ce que dit le titre, hein. Les glaneurs, c'est les gens pour des raisons le plus souvent de dénuement matériel, sont obligés de ramasser les choses dans la rue. Et la glaneuse, c'est elle, et qui s'inclut dans le film avec les possibilités de proximité que lui donnent ces nouveaux outils.
Et alors, la glaneuse, hein, un féminin singulier, et c'est ça aussi, Agnès Varda, quand même une des rares femmes, justement, cinéastes de la nouvelle vague.
Alors, elle faisait tout à fait partie de la bande, ça c'est un peu des légendes que d'autres ont écrit après. D'abord, elle est la femme de Jacques Demy, qui est également membre de la nouvelle vague, et Demy et Varda jouaient aux cartes avec Godard et Carina le dimanche après-midi, après déjeuner, au début des années 60. Et tous ces gens-là se connaissaient, elle était très liée et à Chris Marker et à Alain René. Donc, elle n'était pas à part de ce monde-là. Ensuite, oui, il y a une dimension féministe très forte, très vive, qui se voit dès les courts-métrages qu'elle tourne à la fin des années 50, et bien sûr dans Cléo, et qui va ensuite s'exprimer de manière plus explicite et dans les codes mieux établis au cours des années 70, notamment avec les films « Qu'est-ce qu'elles veulent » et « L'une chante, l'autre pas », son amitié avec Delphine Seyrig, qui était une grande figure du féminisme français, et des engagements. C'est quelqu'un qui a été engagé politiquement, qui a été engagé à gauche, et qui n'en est jamais démordu, et qui voyait dans le féminisme, évidemment, une des dimensions majeures de son engagement pour toutes les formes d'émancipation.
Voilà, Agnès Varda, hein, disparue le 29 mars, à l'âge de 90 ans. Pause musicale dans tous les cinémas du monde, un hommage à un grand nom de la musique pop-rock, lui aussi mort en début de semaine, Scott Walker, inspirateur entre autres de Bowie ou de Bachung. Il avait composé la musique de Paula X de Léos Carax, ou était inspiré par le septième saut de Bergman pour ce titre aux guitares hispanisantes, The Seventh Seal.
His crusade was a search for God, and they say it's been a long way to carry on.
nobody here of plague in this town. The town I've left behind was burned to the ground. A young girl on a stake, her face framed in flames, cried, I'm not a witch, God knows my name. The night he watched with fear, he needed to know. He ran where he might feel God's breath. And in the misty church, he knelt to confess. The face within the booth was Mr. Death. My life's a vain pursuit of meaningless miles. Why can't God touch me with a sign? Perhaps there's no one there, answered the booth, and death hid within his cloak and smiled. This morning I played chess with death, said the knight. We played that he might grant me time. My bishop and my knights will shatter.
Vous êtes bien à l'écoute de tous les cinémas du monde sur RFI. Ce samedi, nous vous emmenons sur les brisées d'un personnage en quête de sens et d'identité qui fuit Israël, se cherche à Paris, refuse l'hébreu et questionne le français. Nadav Lapid, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ce personnage, c'est Yoav, le héros de votre dernier long métrage, synonyme Ours d'or du dernier festival de Berlin.
Je ne veux pas travailler.
Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable, Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis.
Les ducs, les duchesses, les princes, les princesses.
Qu'est-ce que tu vas faire ici?
Je ne sais pas. Je serai français.
Ça ne suffit pas.
Partir. Repartir.
Pas de ça va.
Attends, c'est bon.
Rouler, bien rouler. Surtout en parlant d'une femme. La vie est sublime.
La France. Tu connais qui comme français à Paris?
Un extrait de la bande-annonce de votre dernier long métrage, Nadav Lapid. Les voix, entre autres, de Tom Mercier, le sculptural Yoav, et de Quentin Dolmer, repéré chez Desplechin, et qui joue ici un jeune bourgeois qui va prendre sous son aile le jeune Israélien sans le sou. Le film se déroule à Paris de nos jours, mais il est d'inspiration autobiographique. Nadav Lapid.
Et oui, bonjour encore. Oui, c'est ça, c'est-à-dire moi-même, plus ou moins à l'âge de Yoav dans le film, quand j'avais, je pense que j'avais 22 ans et demi. Donc c'était à peu près environ un an après la fin de mon service militaire. Et comme chaque bon et mauvais Israélien, j'ai fait mon service militaire. Et ça durait 3 ans et demi. Et je pense que je peux dire que j'étais un très bon soldat. Je ne sais pas si c'est en ma faveur ou en ma défaveur. Mais un an plus tard, la vie était assez agréable et assez belle à Tel Aviv, qui est une ville très charmante. J'étais en train de faire mes études de philosophie, et écrire dans une revue assez branchée. Et comme je commençais à écrire mes propres nouvelles, et un peu du jour au lendemain, après brusquement, j'ai eu une sorte de c'est pas une illumination, mais j'ai pigé qu'il faut que je pars tout de suite, que je sauve mon âme, que je m'enaille, que je me casse, que je reviendrai jamais. Et j'avais l'impression que peut-être c'est même trop tard, qu'il faut que je dépêche, qu'il y a une porte qui se ferme, et que je suis le seul clairvoyant entouré d'aveugles, qui sont les Israéliens. Aveugles surtout par rapport à eux-mêmes. Quelques jours plus tard, j'ai atterri à Charles de Gaulle, avec aucun plan concret, avec aucune connaissance, avec sans papier évidemment, mais avec le programme existentiel déterminé et clair de cesser d'être israélien et de me transformer en français, de mourir en tant qu'israélien et renaître en tant que français.
Mais alors pourquoi Paris ? Vous aviez déjà, vous aviez le goût du cinéma français, c'est...
Non, à l'époque pas du tout, j'étais pas du tout, j'avais aucune cinéphilie à l'époque. Presque tout le contraire, enfin, en fait, j'ai pensé être écrivain et j'avais dans ma poche toutes sortes de clichés par rapport au cinéma, comme si le cinéma c'est l'art pour les gens qui n'ont pas une capacité d'abstraction et toutes sortes de choses comme ça. Donc ça m'intéressait pas trop. Je crois, regardant en arrière, il y avait des raisons pratiques, c'est-à-dire New York me paraissait bizarrement trop israélienne. Enfin, on est en Israël, on est super américanisé. Et New York est rempli d'Israéliens, est rempli de Juifs, et ça me paraissait pas suffisamment loin, bien que géographiquement c'est plus loin. Et je pense que d'une manière inconsciente, je saisis qu'il y a une certaine proximité entre le concept israélien et le concept français. Et en même temps, peut-être quelque chose de très, enfin, un grand contraste. C'est-à-dire, je pense que eux, la France et Israël, sont au-delà d'être des pays ou des terrains géographiques cernés par des frontières. Ce sont de propositions, des propositions politiques, idéologiques, esthétiques, existentielles, artistiques. Et pour moi, la proposition israélienne était un échec retentissant. Était un mensonge, était une surenchérie. Et donc je cherchais ce qui, dans ma tête, était la proposition
alternative.
Opposée. Oui, opposée, l'envers total. Et ça, c'était la France. Et ça me paraissait comme la remédie à la maladie israélienne. À part cela, il y avait des raisons étranges. J'ai une énorme fascination, admiration d'enfance pour Napoléon Bonaparte. Fascination de jeunesse pour Zinedine Zidane. Et j'ai vu à bout de souffle 2 mois avant, je trouvais Belmondo, enfin, comme la moitié du monde, je trouvais Belmondo très, très charmant.
Qu'est-ce qui était devenu insupportable en Israël, pour vous, à ce moment-là de votre jeunesse?
Je pense qu'à l'époque, mais un peu comme Yoav dans les films, je suis sûr que si quelqu'un aurait posé la question à Yoav, mais qu'est-ce qui te dérange autant en Israël, mais pourquoi tu fais Israël, il n'aurait pas été capable de donner une réponse précise. C'est comme si le pays m'a rendu fou. Je pouvais plus être israélien, mais je l'étais. Et je savais pas comment faire avec. Après, si je regarde le film, Israël dans le film, ou l'essence d'être israélien, ou la haine d'Israélien, est représentée par de jeunes hommes, virils, baraqués, musclés, et courageux, et fidèles à fond à leur pays, qui doutent pas, qui posent pas des questions. Et dans ce sens-là, je pense que il y a un lien entre les côtés, c'est évident, il y a un lien entre les côtés armée, service militaire, etc., etc., ce qui rend Israël pour moi impossible. Mais pour moi, je pense qu'il faut dire ce côté militaire, ou disons, les services militaires en Israël commencent quand tu as 4 ans et ça termine jamais. C'est-à-dire, je pense qu'il y a, je me souviens de moi-même, c'est même un peu lié à mon film précédent, L'Institutrice, mais il y a un moment où, en tant qu'enfant, j'ai compris quelle est l'échelle des valeurs autour de moi, quelles vertus sont estimées et quelles qualités sont en fait des défauts. Donc, par exemple, courir vite, tirer bien, et ne pas avoir peur de mourir, ne pas avoir peur de tuer, ne pas poser des questions, ne pas avoir des doutes, oui. Et être tendre, être fragile, être vulnérable, aimer la dialectique, et poser des questions, non.
Aimer le doute, non.
Et on s'imagine bien, je pense, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça transforme, à quoi ça transforme un pays qui fonctionne selon cette échelle des valeurs. Et moi-même, je pense, puisque je voulais m'exceller, je voulais être un bon Israélien, donc un bon soldat, donc je pense que j'ai fait taire à l'intérieur de moi-même toutes sortes de certains aspects de mon caractère pour mettre l'accent sur ce qui convenait à ce qui a été demandé ou exigé. Et si tu le fais trop de temps, ça devient ta deuxième nature. Mais il y a quelque chose qui finalement qui va pas. Et l'autre chose qui ne va pas, c'est que je trouve qu'en Israël, puisque tout le monde fait l'armée, tout le monde passe à la passe, hein, donc il y a quelque chose d'anormal qui est normalisé. Et je pense qu'une fois qu'on normalise ce qui n'est pas normal, c'est là où un monstre commence à pousser.
Alors Yoav, donc au début du film, il débarque dans un bel appartement bourgeois parisien, totalement vide, hein, moulure, parquet. Il prend une douche et puis quand il sort, ses affaires ont disparu. C'est presque du théâtre aussi, de l'absurde. Il se met à nu. C'est cette renaissance dont vous vouliez parler, manifester, rendre visible.
Oui, enfin, je crois qu'il est... Donc, le film commence avec une sorte de mort symbolique, ou mort, ou presque une sorte de suicide. Et une fois qu'il renaît, ou qu'il naît, donc il renaît, enfin, comme un bébé, enfin, on sait que les bébés, ils arrivent au monde et sans aucune fortune, sans aucun objet, tout nu. Et c'est comme ça qu'Yoav renaît dans les lits de ce couple parisien. Et la seule chose qui lui reste, c'est son piercing aux lèvres, la seule trace du passé. Et ça va bien, je pense, avec cette tentative, ce désir de tout renier, de tout recommencer, de tout effacer, qui est son étape les plus radicales, c'est son refus absolu de parler en hébreu. Et à partir de ce moment, il y a un peu cette question, est-ce qu'on peut juste recommencer, renaître à l'âge de 23 ans?
Effectivement, donc il refuse de parler hébreu. Il rencontre donc ce couple de voisins, Émile et Caroline, hein, de jeunes bourgeois plus ou moins oisifs. Alors, tous trois vont former un triangle amoureux. Yoav, ce qui est intéressant aussi, il paye Émile de mots. Alors, Émile, c'est un aspirant, c'est Quentin Dolmer, un romancier, aspirant romancier. Yoav lui raconte ses histoires, des histoires de guerre, en fait, les histoires de son grand-père, de son père, de lui-même, lors de son service militaire. Et il y a une sorte d'échange comme ça, il le paye de mots, et en même temps, il lui raconte des récits de guerre. C'est un peu ce qu'on attend souvent de la part des cinéastes israéliens.
On peut dire ça, on peut dire que parfois, en tant que cinéaste, enfin, c'est comme si vous êtes un peu le soleil du cinéma, au moins le soleil d'un certain cinéma. Il y a le soleil américain et il y a le soleil français. Donc il y a deux systèmes solaires. Mais c'est vous qui vous avez le moyen financier, c'est vous qui distribuez la gloire à travers festivals, etc., etc. Mais au-delà de ça, vous avez les analyses, vous avez la tradition, vous avez l'héritage, vous avez la puissance formelle,
l'appareil critique.
Et vous adorez le cinéma, peut-être presque le seul au monde où on peut encore voir une vraie, véritable cinéphilie, je crois. Et s'il y a un manque parfois, ou si on ressent parfois qu'il y a un manque, c'est par rapport au récit urgent. Et j'ai lu quelque part, quelqu'un a écrit que la vraie tragédie d'Émile, c'est le fait qu'il a le désespoir de celui qui n'a pas la légitimité d'être suffisamment désespéré. Et parfois, même en tant que cinéaste étranger, on a l'impression que nos malheurs, c'est notre seule fortune au monde. Et c'est là qu'il faut amener à l'autel du cinéma mondial, ou du cinéma français peut-être. Donc ça existe. Après, je pense que dans les films, j'espère que c'est très ambigu, c'est-à-dire dans le sens que il y a un échange, mais il y a aussi de l'affection et de la tendresse. Il y a une vraie fascination. Il y a une vraie exploitation mutuelle. Et ces choses, justement, coexistent.
Les Grecs ont assiégé Troie pendant 9 ans et ne pas réussi à la conquérir. C'est comme ça que mes parents me l'ont raconté quand j'avais 4 ans. Hector était le héros de Troie. Achille, lui, était le plus grand guerrier des Grecs. Eritrea. Merci. Après 9 ans, ils se sont rencontrés pour un combat décisif. La femme d'Hector l'a supplié de rester à la maison. Personne n'est pas affronté Achille. Dès qu'il se retrouva devant Achille, aussi courageux qu'il était, Hector trembla des peurs. Il se mit à courir.
Courir? Rats? Maraf?
9 fois, ils ont tourné autour des murs. muraille de Troie. Achille poursuit et t'enfuit.
Voilà, là, Yoav est dans un bar avec un de ses amis. Il raconte l'histoire d'Hector, hein, le perdant magnifique de la guerre de Troie. C'est une métaphore parce que, justement, il raconte, Yoav, hein, que quand il était enfant, quand il avait 4 ans, alors vous, Nadav Lapid, vous étiez fasciné par Napoléon, mais lui, le personnage, il était fasciné par Hector, qui est quand même personnage du perdant.
Mais j'étais fasciné aussi par Hector. Et je dois dire que ma fascination à Napoléon, là où je commençais vraiment à admirer Napoléon, c'est quand j'ai lu sur Waterloo, sur le défait de Waterloo. Et je me suis juré de me venger des Anglais, le défait de Waterloo. Bon, peu importe. Oui, j'étais fasciné aussi par Hector, un peu comme dans les films. Et plus mes parents m'ont raconté les Iliades, comment on dit ?
L'Iliade.
L'Iliade. Plus je me suis attaché à Hector, et c'est qui a commencé à évoquer chez eux une vraie angoisse, quoi, parce qu'ils savaient que la fin sera terrible, que la fin sera tragique. Et dans un moment, la fin d'Hector, ça, je veux dire. Et dans un moment, ils ne savaient pas comment ils pourront m'annoncer la mort d'Hector. Donc, ils ont caché le livre. Et ça s'est plus ou moins passé. Mais oui, je crois que c'est-à-dire, je pense que Israël, c'est un pays où, à cause de toutes sortes de raisons politiques, culturelles, historiques, etc., on a vraiment les cultes totales de la victoire. C'est-à-dire, en Israël, on dit toujours, enfin, vous les Français, vous avez perdu beaucoup de guerres, et vous êtes toujours là, et vous allez finalement pas mal. Mais en Israël, il y a cette foi, ou ce mythe, ou cette conviction, qu'on peut absolument pas perdre. On peut gagner 10 000 guerres, mais on n'a pas le droit de gagner une seule guerre, parce que ça sert à notre fin. Bon, quand on pense sur le trauma juif du 20e siècle, on peut tout à fait comprendre. Mais ça crée une obsession de la victoire. C'est-à-dire, le bel Israélien, c'est pas le beau perdant, c'est le winner, c'est le gagnant. Et je crois qu'il y a quelque chose dans cette identification de Yoav avec Hector et pas avec Achille, qui est déjà une sorte d'acte subversif par rapport à cette tradition israélienne. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je crois que quand vous allez à l'armée, évidemment, enfin, vous avez 18 ans, afin d'être un bon soldat, vous devez. C'est la condition la plus importante, la plus essentielle, c'est que vous comprendriez pas, pas que vous pouvez mourir, que vous pouvez mourir. D'être convaincu que si tu es un bon soldat, un très bon soldat, un héros, tu mourras pas. Et je crois que Hector, au-delà de perdre à Achille, il perd à la mort. C'est-à-dire, c'est la mort qui le tue. Il s'enfuit de la mort et c'est la mort qui le capte. Et c'est la mort qui est plus fort, plus héroïque, plus fort de n'importe quel héros. Et je crois que d'une certaine manière, c'est aussi ça. Il y a quelque chose d'Eav qui saisit que face à la mort, même les plus grands héros s'enfuient ou au moins baissent leur tête.
Ce qui est intéressant dans le film, vous disiez, Yoav, il est fasciné par Hector, le perdant de la guerre de Troie. Mais dans le même temps, quand on lui demande de chanter la Marseillaise, alors là, il la chante vraiment en guerrier. Ouais. C'est-à-dire comme s'il avait envie, dans cette France des années 90, un petit peu éthérée quand même, il avait envie de retrouver une espèce d'ardeur primitive et guerrière. Et tout le film est écrit un peu comme ça, c'est-à-dire que chaque scène contredit la précédente. Comment vous l'avez abordé, ce scénario ?
Tout était assez simple. Enfin, faire ce film n'était pas simple, mais l'écriture du scénario, je me suis dit, ah tiens, ça s'est passé plus ou moins comme ça. Et si ça ne s'est pas passé comme ça, ça aurait dû passer comme ça. Donc parfois, j'ai un peu. Vous savez, parfois, la vie tombe à l'imperfection, il faut le corriger un peu. Donc parfois, j'ai écrit les choses telles dans ma tête, elles auraient dû être, et parfois telles qu'elles étaient vraiment. Et d'une certaine manière, le scénario, le récit est assez simple. C'est-à-dire, un jeune homme arrive à Paris, il ne veut plus vivre chez lui, il arrive à Paris, il traverse ce qu'il traverse, et il rentre. Mais en même temps, je pense que d'une manière presque inconsciente, ce qui me fascine surtout, c'est la tentative de me rapprocher à la vérité du moment, à la vérité de l'instant et à la vérité de la vie. Et pour moi, cette vérité est exprimée aussi par le... par quelque chose de dialectique, mais surtout par un certain chaos, ou au moins par le fait qu'il y a une sorte d'étrangeté. Étrangeté dans le sens que des choses, par exemple, qu'on peut se comporter à un moment comme ça et à un autre moment comme ça, c'est pas tout à fait arbitraire, mais c'est pas tout à fait formulé non plus.
Un peu comme sa façon de ne plus vouloir parler l'hébreu, mais en même temps de commencer enfin, d'être vraiment entre deux langues, c'est-à-dire qu'il abandonne l'hébreu, mais il ne parle pas bien le français,
ouais.
D'où le jeu des synonymes.
Ouais.
Et du coup, est-ce que ce n'est pas aussi un peu inventer sa langue, d'être comme ça constamment entre les deux ?
Et oui, c'est-à-dire, je pense qu'il abandonne l'hébreu. Ça, c'est, selon son raisonnement, c'est assez logique, parce que je pense qu'il comprend que... qui est finalement cette âme collective israélienne fait tellement partie de son propre âme à lui qu'il a besoin d'une démarche radicale pour se détacher, pour arracher de lui-même ce noyau israélien. Et il comprend que ça ne sert à rien de quitter Israël si on continue de parler la langue des Israéliens. C'est comme si chaque mot dans cette langue, l'hébreu, dans la langue des Israéliens, contient l'Israël. Donc... tu fuis les démons, mais tu continues à parler sa langue. Donc, d'une certaine manière, ça, c'est logique. C'est aussi une sorte de sacrifice qu'il faut faire. Et après, je crois que, de la même manière, il saisit depuis le début que le plus grand défi sera de trouver une intimité avec la France. D'ailleurs, c'est ça, c'est qu'il trouve jamais. Jamais il trouve la même intimité avec la France qu'il a avec Israël, même si ça, cette intimité avec Israël est accompagnée des haines, des rages, des furieux. Mais bon, c'est de l'intimité. Et je pense qu'un parti de l'intimité, c'est de faire les choses à ta manière. Donc, il veut parler son propre français. Il ne veut pas être une sorte de parler une sorte de langue d'un français lambda, quoi. Oui, des perroquets. De quelqu'un qui sera pour toujours une sorte de français handicapé. Français de deuxième degré. Il cherche son français à lui. Et son français à lui, c'est le français des synonymes.
Méchant, obscène, ignorant, hideux, grossier, fétide, lamentable. Enfin, ça, c'est son, justement les synonymes, hein, d'ailleurs, qu'on voit sur l'affiche du film. Et c'est aussi les mots qu'emploie Yoav pour qualifier Israël. C'est des mots que vous revendiquez, Nadav Lapid. C'est des mots du Nadav Lapid de vos 20 ans ou les mots du Nadav Lapid actuel?
C'est-à-dire, disons que... même si on peut, je pense qu'on ne va pas ruiner le film à personne si on dirait que la tentative d'Yoav de se transformer en français d'une certaine manière tombe à l'eau et que si au début du film Yoav c'est un peu comme une sorte de Candide et Voltaire qui s'enfuit du pire pays au monde au meilleur pays possible, la France, plus le film avance plus il se rend compte que la France a ses propres synonymes péjoratifs à elle. Mais l'idée du film, c'est pas qu'il découvre que finalement Israël n'est pas aussi méchant, obscène, tatatata, que ça. Oui, enfin, je crois qu'Israël a fait beaucoup de choses pour mériter cette chaîne de mots péjoratifs. Mais si vous me demandez, moi, pas forcément comme le réalisateur du film, mais je crois pas qu'avec les temps qui passaient ou qui coulaient depuis... et les choses se sont améliorées. Après, encore une fois, si au début du film, Yoav pense que la France et Israël sont des antonymes, je pense, vers la fin du film, on comprend qu'elles sont aussi des synonymes. Et ce n'est pas nous qui chantons sur les sangs purs qui abrèvent les sillons.
Nos sillons.
Oui. Après, c'est aussi très beau, hein. Je ne vais pas me mettre dans une sorte de position prude. La Marseillaise,
mais c'est un chant guerrier, effectivement.
Oui, la Marseillaise est belle et moche, comme peut-être tous les hymnes nationaux au monde, qui sont un peu cette nature.
Votre film synonyme, Nadav Lapid, est sorti justement en Israël, en salle, après avoir décroché l'Ours d'Or à Berlin. Comment est-ce qu'il a été reçu? Parce que quand vous avez reçu votre récompense à Berlin, vous disiez que ça risquait de choquer... En Israël?
Oui, en fait c'était assez intéressant. Enfin, moi j'étais pas du tout, puisque j'étais à Berlin, j'étais pas du tout conscient de ce qui se passe en ce moment en Israël. Mais le fait de récolter ce prix a été accueilli en Israël avec Disons que les trois chaînes importantes de la télé ont interrompu leur programmation, leur programme, au moment où Juliette Binoche a annoncé Synonyme, pour passer directement à la cérémonie à Berlin. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on fait en Israël quand une guerre éclate, pas quand un réalisateur gagne un prix.
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'était et le lendemain, donc il y avait des journaux télévisés enfin, spéciaux pour analyser le prix à Berlin et tout. Le lendemain, quand j'ai pris l'avion pour de Berlin pour aller à Tel Aviv, deux tiers des passagers de l'avion m'ont demandé de faire des selfies avec moi et avec l'ours. Et les titres dans les journaux en Israël, dans les unes des journaux en Israël, c'était « Fierté israélienne » ou « Héros israélien ». Après, ils ont commencé à...
Ils n'avaient pas vu le film.
Ils n'ont pas encore vu le film. Après, ils ont commencé à diffuser dans les chaînes de télé quelques scènes choisies du film. Mais bon, je pense qu'ils avaient le flair de la scandale, donc ils ont... choisi en plus les scènes où il y a de la provocation et cette chaîne de synonymes péjoratifs ou encore le type qui crie l'hymne national israélien en gueule des gens au métro. Et là, du coup, les gens ont commencé à, tout ce temps, sans avoir vu le film, ils ont commencé à être un peu confus. Est-ce que c'est une fierté israélienne? Est-ce que c'est une honte israélienne? Est-ce que c'est un héros israélien, est-ce que c'est un traître? Et il y avait toutes sortes de choses parallèles. Le ministre de la Culture a pris pas mal de temps. D'habitude, il réagit très vite avant de, je pense, de la tweeter ou quelque chose comme ça. Un truc du genre, on est très fiers de ces succès sans précédent dans le cinéma israélien. Et en même temps, on n'est pas encore sûr si ce film va avec la loi israélienne. Il faut bien encore l'examiner. Donc je pense qu'elle est toujours en train de l'examiner. Mais après le film est sorti. Et une fois que le film est sorti, je dois dire que c'était assez intéressant. Il y a une bonne accueil critique, bonne accueil au niveau du public, au niveau des chiffres. Mais surtout, moi j'ai fait pas mal de présentations et il y avait très peu de questions directes sur la politique. Je pense que beaucoup de gens ont saisi le film dans un niveau un peu plus... je ne sais pas,
existentiel
ou poétique, que pour ou contre Israël. C'est vrai que le fait que les films critiquent aussi la France, ça leur a un peu aidé de digérer les critiques envers Israël. Et une autre chose qui était peut-être même plus émouvant, c'est que j'ai senti à quelle mesure, parce que j'ai reçu vraiment énormément de réactions de ces gens et de gens, comment ce film a touché beaucoup d'esprit, beaucoup d'âmes dans ma génération et les générations encore plus jeunes, des gens qui se sentent aliénés en Israël et en même temps en intimité avec Israël, qui ont peut-être essayé de partir, qui sont revenus mais sont toujours perdus et égarés en Israël, qui veulent partir mais qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire, ça touchait quelque chose de dans ce sens-là, de profond, je pense, et de vrai dans l'état des choses actuelles dans ces pays.
Synonyme, donc, de Nadav Lapid, actuellement à l'affiche des cinémas français avant de sortir bientôt en Russie et au Portugal. Merci, Nadav Lapid, tous les cinémas du monde. C'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré.
Et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve la semaine prochaine, même séance, même cinéma.
Tous les cinémas du monde.
Tous les cinémas du monde.